Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 22 octobre. Alors, je n'ai pas trop suivi ce qui s'est passé sur les marchés depuis 2 jours. Par contre, j'ai quand même réussi à voir un truc, c'est que Nvidia avait tout pété à la hausse et qu'elle s'approchait dangereusement d'Apple pour devenir la plus grosse capitalisation boursière mondiale. C'est génial, donc hein, rien d'autre à dire de plus. Bon, on va pas se mentir, hein, si on regarde les revenus, les chiffres d'affaires et les bénéfices, Apple reste clairement plus grosse que Nvidia. Alors oui, je sais, quand on investit dans Nvidia, c'est pour parier que l'IA va continuer de cartonner pour les années à venir. Que dis-je? Les siècles à venir. Et j'ai presque envie d'ajouter Amen. Nous nous retrouvons donc dans une situation dans laquelle on ne peut pas se mentir, Nvidia est tout de même chère, très chère, en termes de valorisation instantanée. Mais si on se projette dans le futur et que l'on part du principe que tout le monde va continuer d'investir massivement dans l'intelligence artificielle de la sorte, eh ben là, la valorisation se justifie amplement et j'ai envie de dire pleinement. Reste donc à voir jusqu'à quand les sociétés vont investir comme des malades pour être up-to-date sur l'IA et quand c'est que ces investissements seront vraiment rentables. D'ailleurs, seront-ils rentables un jour? Alors pour ceux qui ont vécu la bulle Internet des années 2000, dont j'ai l'immense joie de faire partie, ils vont certainement se dire que les arbres peuvent pas monter au ciel et que ça va forcément mal se finir parce que l'intelligence artificielle est une forme de bulle et qu'une bulle, ça va forcément nous péter à la figure un jour. Le seul problème, c'est que quand on avance la théorie de la bulle de l'intelligence artificielle, on nous répond systématiquement, ouais, mais non, tu comprends, parce que cette fois, c'est complètement différent. Alors, différent, je sais pas, ce que je sais, moi, c'est qu'en général, on nous dit aussi que les mots les plus dangereux en bourse et en finance, c'est cette fois, c'est différent. Et en général, ça finit dans le mur et on se dit, ah ben non, finalement, c'était pas si différent que ça. C'est donc ma petite réflexion de cette semaine. Pendant que j'étais en train de marcher dans les rues de Londres, je me suis mis à réfléchir un peu plus et à essayer de faire des comparaisons entre l'intelligence artificielle d'aujourd'hui et l'arrivée d'Internet hier. Alors la première chose qu'on sait, c'est que le nombre d'utilisateurs de l'intelligence artificielle générative augmente plus vite que le nombre d'utilisateurs d'Internet à la fin des années 90. Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'intelligence artificielle générative, c'est un sous-domaine de l'IA qui se concentre sur la création de contenu original à partir de données existantes. En gros, ChatGPT. Je lui demande de me créer un scénario pour faire une vidéo sur l'IA et la comparaison avec la bulle Internet des années 90, et bam! En 3 secondes, c'est fait. Mal fait, mais c'est fait quand même. Donc aujourd'hui, le nombre d'utilisateurs de l'intelligence artificielle générative augmente plus vite que le nombre d'utilisateurs d'Internet à la fin des années 90. Sauf que la comparaison, si on décide de la faire, n'a absolument aucun sens. Déjà, si on se pose la question, qu'est-ce qu'il fallait pour accéder à Internet en l'an 2000? Déjà, il fallait un PC, il fallait payer un accès à Internet. Le PC de l'époque, compact, en l'an 2000, ça valait près de 3 000 $. Ça avançait à la vitesse d'un escargot au galop en faisant cric-cric pour se connecter au net avec un abonnement qui coûtait l'équivalent de 110 $ par mois, plus ou moins, si on rapporte le tout avec l'inflation de ces dernières années. D'ailleurs, le PC qui valait 3 000 $ à l'époque, aujourd'hui, ça vaudrait quelque chose comme un peu plus de 5 000 $. Et encore, hein, je tiens pas compte du fait qu'il fallait encore en plus un abonnement à Microsoft. Bref, pour accéder au net au début d'Internet, il fallait payer cher pour avoir un service de merde qui vous donnait accès à pas grand-chose et surtout pas grand-chose de qualité. Et puis aujourd'hui, si on fait la comparaison de base, combien est-ce que ça vous coûte pour accéder à un service d'intelligence artificielle générative? Tout simplement que dalle. Enfin, rien ou presque, hein, parce que vous avez de toute façon déjà un ordinateur ou un smartphone, vous avez un accès à Internet, et puis par exemple, OpenAI ou d'autres offrent gratuitement des services limités, d'accord, mais des services gratuits au début. On peut donc partir du principe que les gens qui étaient prêts à payer pour avoir un accès à Internet il y a 30 ans, laissaient supposer quand même qu'ils espéraient avoir un gain substantiel en se connectant au net ou éventuellement pouvoir lancer un business en relation avec le net. Le coût minime, voire nul, de l'accès à ChatGPT et à d'autres systèmes d'intelligence artificielle générative aujourd'hui, signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin de beaucoup de bénéfices, voire d'aucun, juste pour essayer, pour voir ce que ça donne. On peut donc en déduire, si on réfléchit, que comparer l'arrivée d'Internet il y a 30 ans avec l'arrivée de l'IA aujourd'hui, c'est un tout petit peu tiré par les cheveux. Certains experts de certaines banques centrales américaines se sont amusés à comparer l'utilisation des médias sociaux et de l'IA générative au bureau. Mais encore une fois, la comparaison est super difficile, pour pas dire complètement ridicule. Oui, parce que l'utilisation des services gratuits comme les médias sociaux, les apps à la noix, c'est des applications qui sont gratuites et pas forcément utiles dans l'optimisation du travail. Je dirais même au contraire, ça sert pas à grand-chose et ça devient des divertissements qui créent une dépendance et qu'on paye surtout avec notre temps plus qu'avec notre argent. Et pourtant, des recherches ont été effectuées sur les effets possibles de l'IA générative sur la productivité au travail. Alors les gars, ils ont examiné l'intensité avec laquelle les personnes utilisent l'IA générative. Et en gros, c'est un peu comme si on essaie de comparer l'utilisation intensive de Facebook et autres plateformes de médias sociaux pour voir si ça réduisait la productivité au travail. Le nombre de personnes qui utilisent les médias sociaux et le nombre d'heures qu'elles y consacrent ne constitue absolument pas une mesure réelle et montre pas clairement des retombées économiques concrètes. C'est à peu près pareil pour l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, on peut même dire que la valeur économique ajoutée et la productivité du travail qui est stimulée par l'intelligence artificielle ne sont pas mesurées par le nombre de personnes qui l'utilisent ou par le coût de sa création et de son maintien. Elle est mesurée tout simplement par la valeur économique ajoutée et les gains de productivité du travail. Et il y a peu de preuves que l'IA générative fait bouger l'aiguille de manière phénoménale. Prends un exemple tout bête, hein, moi. J'ai testé le principe. Une partie de la vidéo des crashs que j'ai publiée cette semaine, elle a été créée avec l'aide de l'intelligence artificielle. La trame du scénario en tous les cas. L'IA m'a donné un énorme coup de main, c'est indéniable, mais pour écrire le scénario. Mais il faut savoir que pour écrire un scénario, tourner une vidéo, la monter et la publier, je mets en général entre 3-4 heures selon la complexité du sujet. Alors qu'en utilisant l'IA et en devant réécrire la moitié du scénario parce que ChatGPT a un humour pathétique et parce que ses émotions sont absolument fake, plus le fait de devoir tourner la vidéo et de la monter quand même, ça me prend 3-4 heures aussi. Donc en gros, exactement la même chose et je ne gagne pas un centime de plus à la fin du mois. Alors si l'IA générative doit être rentable en termes de productivité du travail, elle doit aussi générer suffisamment de revenus pour justifier son coût. Dans le cas présent, mon abonnement à ChatGPT me coûte 20 balles par mois. Même rapport, pour l'instant, rien du tout. On peut donc se poser des questions. Il y a un analyste américain qui a fait des calculs savants et il a estimé qu'aujourd'hui, par rapport aux investissements qui ont été mis dans l'IA générative, il faudrait avoir des revenus de 600 milliards de dollars annuels pour pouvoir justifier ces investissements, les investissements qu'on fait dans cette technologie à l'heure actuelle. Un chiffre qui, à l'heure actuelle, est probablement plus de 100 fois supérieur aux revenus annuels générés par ChatGPT, Gemini de Google ou Copilot de Microsoft et tous les autres services d'intelligence artificielle semi-gratuits. Et puis d'ailleurs, si on va chercher un peu plus loin, il y a le New York Times qui a écrit récemment qu'OpenAI prévoyait des pertes de 5 milliards de dollars pour un chiffre de 3,7 milliards de dollars en 2024. Pourtant, OpenAI a quand même reçu 6,6 milliards de dollars de financement supplémentaire histoire de se maintenir à flot, ce qui a quand même valorisé l'entreprise à 157 milliards de dollars. Ça rappelle certainement un peu l'abus d'Internet. Aujourd'hui, la valorisation de ChatGPT ou OpenAI voudrait dire que si elle était cotée en bourse dans le S&P 500, 87% des sociétés du S&P 500 seraient derrière ChatGPT OpenAI. Donc vous voyez que le montant est absolument ahurissant. Alors tout ça rappelle fortement la bulle Internet. Mais il y a des gars comme Jim Covello de chez Goldman Sachs, et Ken Griffin de chez Citadel ou encore Yardeni qui préviennent tous que le jour où la bulle de l'IA pète, ça pourrait être encore pire. Pour autant que ce soit une bulle, bien sûr. Alors pour aller plus loin et se faire une vraie idée, on pourrait comparer la bulle de l'IA avec celle d'Internet en examinant les revenus de l'an 2000, le pic de la bulle Internet, et en comparant avec les revenus de l'IA génératif pour 2024. C'est assez simple et ça donne une bonne idée. Alors une étude estime que 134 millions de PC ont été vendus en l'an 2000 à 5 000 $ par ordinateur, ce qui représente plus ou moins 684 milliards de dollars de recettes. Le nombre d'internautes dans les années 2000 était d'environ 361 millions, ce qui veut dire à 110 $ par mois d'abonnement Internet, ce qui équivaut à 850 milliards de dollars de recettes, tout ça ajusté à l'inflation. Le e-commerce a également généré des revenus en l'an 2000. Déjà, en 2001, on estimait que l'e-commerce représentait toujours, en ajustant avec l'inflation, des revenus de 500 milliards de dollars. On peut donc estimer à la louche qu'en l'an 2000, les revenus d'Internet mis bout à bout étaient de 1500 milliards, et ça c'est pour être conservateur, et à ce moment, la bulle n'avait pas éclaté. Alors aujourd'hui, l'IA générative génère environ 10 milliards de revenus. Autant vous dire que si un jour on se rend compte que les investissements massifs dans ce secteur ne rapporte pas assez à terme, il va y avoir un trou qu'il va falloir combler. Et ça pourrait faire très mal, voire très très mal. Alors pour conclure cette réflexion du matin après ma promenade dans Hyde Park, eh bien on va dire que l'IA est fascinante, pleine de promesses et indéniablement en pleine croissance. Par contre, si l'histoire nous a bien appris une chose, c'est qu'il faut jamais ignorer les fondamentaux. En tant qu'investisseur, se laisser emporter par l'euphorie sans évaluer le rapport coût-bénéfice peut nous mener assez rapidement droit dans le mur. Que ce soit l'IA d'aujourd'hui ou Internet hier, les arbres ne montent jamais au ciel, en théorie, et les marchés finissent toujours par revenir à la réalité. Donc la question reste, est-ce que cette fois c'est vraiment différent, ou est-ce qu'on se raconte simplement une nouvelle version d'une histoire déjà entendue? Seul le temps nous le dira. D'ici là, restez prudents, gardez vos pieds sur terre, et comme toujours, méfiez-vous de l'excès d'optimisme, et c'est un boule comme moi qui le dit. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour de nouvelles réflexions dans le monde merveilleux de la finance qui n'a jamais de nous surprendre. En tout cas, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah oui, je tiens encore à préciser que la conclusion de cette vidéo, celle qui commence par « pour conclure », a été écrite intégralement par ChatGPT. Voilà, bonne journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Mais en tous les cas, on se retrouve de toute façon samedi pour un nouveau SwissBliss parce que je serai revenu de Londres. Allez, bonne journée à tous et à tout bientôt. Bye bye.